Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient jusqu'à 9h, temps universel. Vos réactions sur les accusations de la République démocratique du Congo contre la firme américaine Apple, car selon l'État congolais, le géant américain de la tech utiliserait des téléphones sur ses téléphones et ordinateurs, des minerais stratégiques qui seraient donc achetés au Rwanda, des minerais provenant de mines congolaises exploitées illégalement par des groupes rebelles soutenus par Kigali. Alors évidemment, cette annonce fait grand bruit à Kinshasa. Vous êtes très nombreux à souhaiter commenter ces accusations. On va donc vous donner la parole, 33 9 693 693 70, et vous continuez à poster vos commentaires. J'en lirai quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, votre rendez-vous avec la rédaction de RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité, et vous avez été nombreux la semaine dernière à nous poser des questions après l'adoption au Royaume-Uni du très controversé projet de loi qui permet d'expulser vers le Rwanda les migrants arrivés illégalement sur le territoire britannique. On va commencer avec Albert, un premier auditeur sur ce sujet. Bonjour Albert.
Oui, bonjour Juan. Bonjour les éditeurs de RFI.
À Cotonou, au Bénin, nous vous écoutons.
Oui, par rapport à l'exposition que vous avez faite par rapport à cette loi-là, je vais directement aller avec deux questions.
Oui.
La première question est de savoir, comme nous savons tous que cette loi est censée prévenir la traversée de la Manche par les migrants, je voudrais savoir si elle pourrait vraiment être plus efficace que les mesures de dissuasion précédentes.
Ah, c'est une bonne question que vous posez. C'est la question que tout le monde se pose, pour être très honnête avec vous, Albert. Pour vous répondre, deux consoeurs, Caroline Renaud, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service internet de RFI, et Leslie Carretero, journaliste à Info Migrants, site d'information sur les migrants dont France Média Monde est partenaire. Caroline Renaud, c'est vrai que cette loi permettra-t-elle de dissuader les migrants de traverser illégalement la Manche? C'est la question que tout le monde se pose, y compris au Royaume-Uni.
Oui, c'est en tout cas ce qu'espère Rishi Sunak, le premier ministre britannique. Cette loi est même devenue un élément central de sa campagne de réélection Stop the Boats, dans laquelle il promet, depuis son arrivée au pouvoir, de stopper les bateaux qui traversent la Manche. Mais en réalité, c'est peu probable que cet accord dissuade les gens de se rendre au Royaume-Uni. Ce qu'il faut comprendre, Albert, c'est que ces demandeurs d'asile ont souvent déjà traversé le désert, la Méditerranée et plusieurs milliers de kilomètres pour atteindre Calais.
Oui, Calais, dans le nord de la France, la traversée de la Manche, il faut quand même le rappeler, Caroline Renaud, c'est vraiment la dernière étape de leur parcours migratoire.
Oui, il ne leur reste que 30 kilomètres pour atteindre les côtes britanniques, qu'on aperçoit même à l'œil nu depuis Calais. Alors pour y parvenir, les migrants risquent déjà leur vie. On l'a à nouveau vu mercredi dernier avec le naufrage qui a entraîné la mort de 5 migrants, dont une fillette de 7 ans. Autre point important, ils sont pour beaucoup anglophones et ont souvent de la famille déjà installée là-bas. C'est donc peu probable qu'une expulsion potentielle vers le Rwanda suffise à les démotiver.
Ouais, Leslie Carretero, c'est d'ailleurs ce que vous disent les migrants quand vous allez à leur rencontre dans le nord de la France.
Oui, ils nous l'ont dit à plusieurs reprises, Juan, ils ne rebrousseront pas chemin. Comme le disait Caroline à l'instant, ils ne sont qu'à quelques kilomètres de leur but final, après des mois, voire des années sur la route de l'exil, et ils ne voient en fait tout simplement aucun avenir en France. Alors pour eux, accord avec le Rwanda ou non, le Royaume-Uni représente le dernier espoir d'une vie meilleure. Et en plus, beaucoup pensent que ce projet de loi n'est qu'un effet d'annonce et qui vise juste à effrayer les exilés, mais qu'il sera beaucoup trop difficile à mettre en application. Alors on ne peut pas nier que certaines personnes sûrement vont être découragées, mais ce n'est pas la majorité. J'ai eu en début de semaine au téléphone Yann Manzi de l'association Utopia 56, qui est très présente dans le nord de la France, et il me disait, c'est sûr que la crainte d'être envoyé au Rwanda peut freiner certaines personnes, mais cette loi ne stoppera pas les traversées de la Manche. La preuve, ce week-end encore, les tentatives de traversée ont été nombreuses. Près de 100 personnes ont été secourues dans la Manche côté français, samedi, pour la seule journée de samedi, et plus de 350 migrants sont parvenus à atteindre les côtes britanniques.
Caroline Renaud, vous souhaitez apporter une précision?
Oui, c'est vrai que cette loi crée la panique chez les exilés qu'on rencontre. En début de semaine, lors d'un reportage à Calais, un Soudanais me disait, je cite, « J'ai peur, j'ai traversé plus de 5000 kilomètres et si près du but, j'apprends que je pourrais retourner en Afrique. Les migrants sont un peu dans la crainte et dans l'attente de voir comment ça va se passer. »
Albert, vous avez une dernière question?
Oui, j'ai une seconde question. Je voudrais savoir quelles conséquences cette loi pourrait avoir sur les conditions de vie des sans-papiers au Royaume-Uni.
Alors, Caroline Renaud, précisons que cette loi ne concernera pas tout le monde.
Oui, seules les personnes arrivées illégalement au Royaume-Uni après le 1er janvier 2022 pourraient être envoyées au Rwanda. Mais finalement, cette loi a une portée bien plus large que les expulsions. Comme l'explique l'ONU, elle crée un précédent inquiétant qui pourrait affaiblir le droit d'asile au niveau mondial. En fait, en signant cet accord d'externalisation, Londres se défait en quelque sorte de sa responsabilité des réfugiés.
Leslie Carretero ?
Oui, si je comprends bien votre question, Albert, vous vous demandez si les sans-papiers qui sont installés depuis des années dans le pays sont concernés par ces expulsions. Alors non, en fait, ce sont seulement les demandeurs d'asile et uniquement les demandeurs d'asile, donc les personnes qui viennent d'arriver sur le sol britannique, ce sont ces personnes qui sont renvoyées au Rwanda et qui devront déposer leur dossier dans ce pays. Et c'est le Rwanda qui sera responsable de leur demande, ce ne sera plus le Royaume-Uni. Je le répète, les sans-papiers sont des personnes qui sont arrivées il y a plus longtemps. Donc ces personnes ont déjà été déboutées de l'asile et ces personnes ne risquent pas d'être envoyées au Royaume-Uni. Ils resteront au Rwanda, pardon, oui. Ils resteront au Royaume-Uni. En théorie, pour eux, rien ne va changer.
Voilà Albert pour les explications de Caroline Renaud et de Leslie Carretero. Vous restez toutes les deux avec nous. On a encore des questions concernant la politique migratoire du Royaume-Uni. Bonjour Willy.
Bonjour, bonjour Anne Gomez. Comment vous allez?
Bah écoutez, ravi de commencer la semaine avec vous notamment et les nombreux auditeurs au téléphone. On vous écoute. Quelles sont vos questions?
Ok, j'ai trois questions sur les expulsés.
Oui.
La première question, c'est de savoir à combien d'expulsés on peut s'attendre chaque année.
Alors, Leslie Carretero, la loi ne fixe aucun objectif chiffré. Hein.
Non, il n'y a pas de quota. Le but du Premier ministre Rishi Sunak est d'envoyer un maximum de demandeurs d'asile au Rwanda pour désengorger son propre système d'asile qui est lui-même saturé. Je rappelle juste un chiffre, il y a plus de 200 000 dossiers d'asile qui sont en attente au Royaume-Uni et le gouvernement n'arrive plus à faire face. Et Rishi Sunak veut aller vite, on l'a appris ce week-end. Le quotidien britannique The Guardian a annoncé que les autorités vont lancer dès aujourd'hui, dès ce lundi, une importante opération pour arrêter des demandeurs d'asile présents dans tout le Royaume-Uni. Les transférer dans des centres en attendant les vols prévus vers le Rwanda. Les médias britanniques évoquent un premier chiffre. On parle de 52 000 personnes qui seraient concernées par la première phase d'expulsion. Mais qu'est-ce que veut dire première phase d'expulsion? Sur combien de temps? Combien d'avions par semaine? Combien de personnes à bord? Pour l'instant, c'est assez flou.
Alors, en tout cas, premier vol annoncé par Rishi Sunak, début du mois de juillet, aucune date précise pour l'instant. Willy, votre deuxième question?
Et la deuxième question est de savoir les nationalités les plus concernées dans cette opération.
Ah, Caroline Renaud, est-ce qu'on a une idée d'abord déjà du profil des personnes qui sont susceptibles d'être renvoyées et sur les nationalités qui sont potentiellement visées?
Oui, ce qu'on sait, c'est que tout le monde et toutes les nationalités sont concernées par ces expulsions. Quand je dis tout le monde, je parle des hommes évidemment, mais aussi des femmes et des enfants. Même les Afghans qui ont travaillé pour l'armée britannique dans leur pays avant le retour des talibans et qui sont arrivés récemment sur le sol anglais peuvent être expulsés vers Kigali. Et je tiens aussi à rappeler que les personnes envoyées au Rwanda, qu'elles obtiennent le statut de réfugié ou non, ne pourront jamais revenir de manière légale au Royaume-Uni.
Et votre troisième et dernière question, Willy?
Et ma dernière question est de savoir si il peut y avoir risque que ces expulsés soient renvoyés dans leur pays d'origine.
Une fois arrivés au Rwanda, Leslie Carretero?
Eh bien, c'est toute la question, Willy. C'est d'ailleurs le grand sujet d'inquiétude des associations et même de la Cour suprême britannique qui avait rejeté le texte en fin d'année dernière. Les demandeurs d'asile qui, eux, obtiennent le statut de réfugiés. Donc pour eux, ils seront protégés, ils resteront au Rwanda, ils auront accès au marché de l'emploi, à l'école pour leurs enfants, à la sécurité sociale, entre autres. Mais alors les autres, ceux déboutés de l'asile, donc ceux, je rappelle, dont le dossier a été refusé, eh bien on ne sait pas. Est-ce qu'ils vont pouvoir faire appel et avoir une deuxième chance? Est-ce qu'ils vont errer sans papier au Rwanda? Est-ce qu'ils vont tenter de reprendre le chemin de l'exil? Est-ce qu'ils vont être renvoyés dans leur pays d'origine? On ne sait pas, il reste beaucoup de questions sans réponse. Il faut rappeler que la majorité des migrants qui débarquent au Royaume-Uni sont des Afghans. C'est la première nationalité des demandeurs d'asile qui débarquent dans le pays. Et les pays européens, on le sait, ne renvoient pas vers Kaboul. Mais on ne sait pas ce que fera le régime de Paul Kagame.
Willy, très bonne journée. Merci de nous avoir appelés. 339 693 693 70. On prend un dernier auditeur sur cette loi très controversée au Royaume-Uni. Loi qui suscite un tollé. Vous avez entendu sur notre antenne les différentes réactions de la communauté internationale. Bonjour Doyen.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les 100% RFI qui sont à Calémie et plus particulièrement à ma femme Gisèle, merci.
Ah bon, on salue votre femme Gisèle. Vous êtes à Kinshasa, Doyen. Quelle est votre question?
Exactement, Juan Gomez. Après des mois au Parlement britannique, le projet de loi permettant l'expulsion vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrer également au Royaume-Uni a finalement été adopté le 22 dernier.
Oui.
Question Juan Gomez. Comment le Royaume-Uni va-t-il s'assurer de bonnes conditions d'accueil des demandeurs d'asile au Rwanda?
Alors, qui répond? Caroline Renaud.
En fait, doyen, l'externalisation des demandes d'asile, ça revient à dire « les demandes d'asile ne sont plus de ma responsabilité, je les délègue à un autre État ». En d'autres termes, même s'ils sont envoyés par le Royaume-Uni, la gestion des demandeurs d'asile sera entièrement traitée par le Rwanda. Londres n'aura pas à s'assurer des conditions d'accueil à Kigali.
Ouais. Leslie Carretero, l'accueil des demandeurs d'asile au Rwanda, c'est vraiment un des points qui inquiète particulièrement les ONG et les instances internationales.
Eh bien oui, parce qu'en fait, on ne sait pas ce qui se passera là-bas. Personne n'aura le droit de regard sur la manière dont les demandeurs d'asile seront accueillis dans le pays ou sur la manière dont sera traité leur dossier. Londres s'en remet totalement à ce pays africain. En plus, les associations rappellent que le Rwanda n'est pas un modèle. Le pays est dirigé d'une main de fer depuis une vingtaine d'années par Paul Kagame. Selon Human Rights Watch, les exécutions extrajudiciaires, c'est dur à dire, les décès en détention, les disparitions forcées et la torture sont légion au Rwanda. Le pays a aussi été épinglé il y a plusieurs années sur les violations des droits humains, notamment à l'encontre des réfugiés et des demandeurs d'asile. Et la question se pose aussi sur l'intégration de ces réfugiés. On dit qu'ils auront accès à un travail, à un logement dans le pays. Alors oui, mais le Rwanda compte déjà sur son sol plus de 135 000 réfugiés, dont 70 000 Congolais, selon l'ONU. Et beaucoup d'entre eux vivent encore dans les camps, alors qu'ils sont dans le pays depuis plusieurs années. Mais ils ne trouvent pas de logement, ni de travail dans un pays où, on le rappelle, près de 40% de la population vit toujours sous le seuil de pauvreté.
Voilà, des explications à écouter à tout moment sur notre site internet, mais aussi sur l'application RFI Pure Radio. Doyen, a-t-on répondu à votre question?
Exactement, Juan Gomez, merci et bonne journée.
Et bonne journée à Kinshasa et bonne journée à toutes les deux. Caroline Renaud, journaliste au service internet de RFI, et Leslie Carretero du site Info Migrant.
Merci.
8h22 merci. À Paris, on va parler des élections européennes. On est à 40 jours à peu près, en tout cas, elles se tiendront le 9 juin. Messi Fidel, bonjour.
Bonjour Juan, comment allez-vous?
Bah écoutez, très très bien, et vous-même?
Oui, ça va également, à Lubumbashi.
Bah, Lubumbashi dans l'est de la RDC, quelles sont vos questions?
D'accord. D'après les sondages, Juan, le parti d'Emmanuel Macron est largement devancé par le Rassemblement National de Marine Le Pen et rattrapé par le Parti Socialiste. À cet effet, Juan, je voudrais comprendre comment expliquer les faibles intentions des votes en faveur du parti présidentiel.
Ah, c'est vrai que les sondages se suivent et se ressemblent. Hein. La liste du Rassemblement National est largement en tête avec plus de 30% des intentions de vote. Bonjour Charlotte Turien-Tomaka.
Bonjour Juan.
Merci de nous rejoindre, journaliste au service politique de RFI. Que se passe-t-il? Comment expliquer finalement cette faiblesse du parti, enfin en tout cas du groupe présidentiel dans ces élections législatives européennes?
Les sondages ne sont pas bons pour la majorité. Le paysage électoral, en fait, il apparaît complètement figé depuis de nombreux mois déjà. Les dernières enquêtes d'opinion, eh bien, le confirment. Le rapport de force qui est installé depuis plusieurs mois, c'est-à-dire la forte avance du Rassemblement national, qui caracole autour de 30% d'intention de vote, suivi de très loin par la majorité présidentielle, généralement sous les 20% selon les différents instituts. Puis vient le bloc de gauche avec des listes écologistes, socialistes et insoumises, dont le score oscille entre 7 et 13%. Alors, il faut savoir que traditionnellement, la campagne pour les européennes, eh bien, elle se joue en quelques semaines. Mais cette fois, la crise des agriculteurs qui a eu lieu au mois de janvier semble avoir anticipé le duel entre les camps progressistes et nationalistes en reposant le débat sur le poids des directives européennes sur la politique nationale, sans créer pour autant de ruptures significatives avec les dynamiques déjà en place, en dépit de la batterie de mesures présentées par l'exécutif en faveur des agriculteurs ou le concert critique des oppositions. Alors, ce qui peut expliquer en partie les faibles intentions de vote, c'est que le bilan d'Emmanuel Macron discrédite la majorité sur les principaux thèmes de campagne, l'inflation, le pouvoir d'achat et l'immigration. Par ailleurs, la tête de liste Valérie Ayé, eh bien, elle ne parvient pas à rassembler derrière elle. Donc la majorité pâtit d'une forme d'essoufflement après cette année d'Emmanuel Macron passé au pouvoir. Et l'élection de juin prochain, la première depuis la présidentielle, eh bien, elle pourrait tourner au plébiscite pro ou anti-Macron dans un moment critique pour l'exécutif à la recherche d'une nouvelle dynamique. Et ces élections, eh bien, ce sera le seul scrutin national du quinquennat. Elles vont avoir un statut particulier d'élection de mi-mandat, ce qui maximise les envies de vote sanction contre la majorité.
On verra ça donc le 9 juin. D'autres questions, Messi Fidel?
Oui, la dernière, qui est celle de savoir quelle stratégie Renaissance compte-t-il mettre en place pour améliorer ses scores.
Ah, On nous avait dit, Charlotte Turien, Thomas Kahn, je parle sous votre contrôle, puisque vous êtes journaliste au service politique de RFI, que la nomination de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, c'était une façon de mettre en place une arme anti-Bardella. On a entendu le président Macron, la semaine dernière, s'exprimer justement sur l'Europe. Est-ce que c'est cela la stratégie pour essayer d'améliorer le score et les intentions de vote ?
Eh bien, vous avez parlé de l'arme anti-Bardella, eh bien, elle s'est enrayée, on peut le dire. Alors, même s'il paraît désormais compliqué pour la majorité de doubler le RN de Jordan Bardella lors de ces élections, Renaissance espère encore au moins réduire un peu l'écart. La composition de la liste, elle n'a pas encore été dévoilée. Ça devrait intervenir normalement cette semaine ou en début de semaine prochaine. Et grâce à cela, la majorité espère gagner quelques points en faisant connaître les noms des participants. Dans l'équipe de la candidate de la majorité, Valérie Hayé, on répète que les Français ne sont pas encore dans la campagne et que la campagne n'a pas réellement démarré. Le programme également, il devrait être connu au début du mois de mai, donc cette semaine ou la semaine prochaine, de quoi donner de l'espoir à la majorité encore pour gagner quelques points dans les intentions de vote. Le président, vous l'avez dit, eh bien, il compte désormais s'investir dans la campagne. C'est ce qu'il a fait dès jeudi dernier avec son grand discours sur l'Europe depuis la Sorbonne. La majorité espère que ce discours du chef de l'État aura permis de faire, je cite, la bascule. Rien n'est moins sûr pour le moment et la campagne devrait s'accélérer à partir de la semaine prochaine. 7 mai, date du grand meeting parisien de Valérie Hayé à la Mutualité. Le tir devrait ensuite se concentrer sur les zones de force de l'électorat macroniste dans le Grand Ouest de la France, en Alsace et dans le Massif Central. La semaine dernière, en marge du Conseil européen à Bruxelles, Emmanuel Macron a confirmé qu'il prendrait part à la suite de la campagne, je cite, dans les moments appropriés, dans le format et dans le cadre qui convient. En privé, le chef de l'État, vous l'avez dit, qui espérait un effet Gabriel Attal sur ces élections européennes, confie que l'effet du nouveau gouvernement Attal n'a pas duré un mois. Et pour relancer la liste de la majorité, il va falloir que je m'en occupe personnellement. Mais pour certains élus de la majorité, le rejet du président est tellement fort qu'ils pensent le payer très cher dans les urnes le 9 juin.
Messi Fidèle, a-t-on répondu à vos questions ?
Exactement. Merci à Charlotte et à vous, Juan.
Charlotte Turien, Thomas Kahn, journaliste du service politique de RFI. On l'avait prévu ce matin, puisque là aussi vous étiez et vous êtes nombreux à réagir et à nous poser des questions sur les accusations de la République démocratique du Congo contre la firme américaine Apple. On avait prévu une question sur le volet vraiment purement judiciaire. On avait l'un des avocats mandatés par Kinshasa qui, malheureusement, vient de se désister à l'instant. Pour des raisons évidemment professionnelles. Je ne désespère pas l'avoir soit d'ici la fin de cette émission, soit demain ou au plus vite évidemment pour nous éclairer et répondre à vos questions concernant le volet judiciaire puisque la RDC, je vous le rappelle, accuse Apple d'utiliser dans ses équipements électroniques des minerais exploités illégalement dans certaines de ces mines. On va évidemment en parler tous ensemble dans deux minutes. Les réactions, elles sont nombreuses. Il y a par exemple Serge qui nous a écrit sur Facebook, il nous dit le Congo a la plus grande réserve de coltan au monde, mais paradoxalement, c'est le Rwanda voisin qui est le premier exportateur mondial de coltan. C'est vrai que ça semble pour le moins troublant. Réaction de Bernabé qui affirme que certaines multinationales participent à l'effort de guerre en ce moment dans l'est de son pays, avec, dit-il, la complicité de certains Congolais et du gouvernement rwandais. Par conséquent, nous dit Bernabé, toute personne qui a en sa possession un iPhone à la main, eh bien, cette personne a finalement du sang congolais entre ses propres mains. Au standard, il y a beaucoup d'auditeurs. On va commencer justement avec un premier auditeur. On va me dire qui nous avons au standard. Serge, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour aux Africains et à tous les auditeurs de la RFI.
Vous aurez largement le temps de développer votre analyse juste après la dernière édition d'Afrique Matin. Mais d'abord, avez-vous été surpris, vous, par les accusations de l'État congolais ?
Je n'ai pas été surpris, mais j'ai été plutôt émerveillé. Je peux dire une surprise très agréable, d'autant plus que le gouvernement a saisi la balle au bon, même tardivement, mais ça valait la peine.
Oui, ça valait la peine parce que vous pensez qu'on assiste là au début d'un long bras de fer judiciaire entre vos autorités et Apple ?
Effectivement, non seulement Apple, je pense que c'est une boîte à Pandore qui s'ouvre, les autres entreprises aussi vont devoir être intéressées, soit inquiétées.
Oui, parce que, et vous êtes plusieurs à nous le dire d'ailleurs sur le réseau Soso, là il s'agit d'Apple, mais d'autres grandes multinationales sont également pointées du doigt par des organisations de la société civile dans l'est de la RDC. Appelez-nous, exprimez-vous, RFI vous donne la parole, on se retrouve dans tout juste 10 minutes.